Chapitre 12. La pluie cessa comme si les éléments eux-mêmes suspendaient toute activité pour entendre la sentence. L'eau s'écoulait de la toile gondolée en filets discrets qui dégringolaient sans heurts sur l'herbe tellement humide et piétinée qu'elle avait désormais la consistance de la boue. Les projecteurs traçaient des sillons au bord tranchant dans la nuit précoce qui avait isolé le chapiteau des campements les plus proches.
Les faits ont été exposés. La vérité est maintenant établie.
La voix de Solman parut se dissoudre dans la moiteur chargée d'odeurs que ne parvenait pas à disperser un vent mollissant. Il ferma les yeux et demeura quelques secondes immergé dans ses pensées pour raffermir sa résolution, mollissante elle aussi.
La justice ?
Ce mot s'était échappé de ses lèvres comme un soupir de regret. Toute la tension de son corps semblait s'être transférée dans sa jambe tordue.
La justice. Il est parfois difficile de la rendre,
reprit-il en rouvrant les yeux et en fixant les ombres scintillantes et figées des trois langues.
Dans certains cas, comme celui qui nous intéresse, les faits dissimulent des vérités cachées. Des enjeux qui concernent l'ensemble des peuples nomades et dépassent les querelles entre les personnes.
Il vit les traits de Herat se durcir et sa main agripper la crosse de l'un de ses pistolets. Les Slang n'accepteraient pas d'être déboutés sans réagir. Il craignit que ses paroles ne provoquent une flambée de violence sous le chapiteau. La facilité, la logique, aurait voulu qu'il abonde dans le sens des plaignants et condamne à l'exécution capitale les 6 membres du Conseil Aquariote, mais il resta accroché à son intime conviction, à cette idée que leur mort engendrerait de nouvelles horreurs pires encore que celles qu'ils avaient commises. L'armée des ombres rôdait dans la nuit noire, celle-là même dont il avait ressenti la présence à la suite de sa rabde avec le groupe d'Elaine l'Ancienne, celle-là même qui commandait aux hordes de chiens sauvages et qui, à travers les Slang, cherchait à dresser les peuples nomades les uns contre les autres. Ce jugement n'inverserait pas le cours d'une guerre occulte et mal engagée. Une autre définition de l'apocalypse annoncée par Raïma. Mais il permettrait peut-être aux uns et aux autres de se réorganiser, d'échapper à l'extermination qui leur semblait promise. Il lui fallait donc trahir son serment et perpétrer l'injustice pour gagner un sursis au risque de perdre son don, au risque de perdre la vie.
La plainte des pères Slang n'est pas recevable,
poursuivit-il en soutenant le regard exorbité et étincelant de Herat.
Non que je mette en cause le malheur qui a frappé leur peuple, mais certains éléments m'ont amené à douter de la validité de leur démarche.
Le murmure qui ponctua sa déclaration enfla rapidement en un indescriptible charivari.
Herat brandit son pistolet et tira à 2 reprises pour rétablir le silence.
Des cascatelles chutèrent de la toile percée par les balles et s'abattirent en pluie. Des rangées de spectateurs s'écartèrent en poussant des cris d'orfraie.
Tu n'es pas ici pour décider de la validité de notre démarche, boiteux, mais pour juger des hommes et des femmes coupables d'avoir voulu empoisonner tout un peuple!
Cria le Slang. La colère faisait ressortir son accent qui, de chantant, était subitement devenu rocailleux, guttural. La toile continuait de se déchirer sous le poids de l'eau. De véritables cataractes se déversaient à présent sur l'assistance et engendraient des mouvements de panique qui se brisaient sur les îlots épargnés par les trombes.
C'est à moi, et à moi seul, qu'il revient de déterminer leur culpabilité.
Rétorqua Solman d'une voix calme. La vue du pistolet ne l'effrayait plus. La mort était sans doute ce qui pouvait lui arriver de mieux à présent.
Et les membres du Conseil Aquariote sortiront de ces lieux aussi libres qu'ils y sont entrés.
Il n'eut pas besoin de lancer un regard en direction des 6 accusés pour percevoir leur soulagement, pour deviner leur sourire. Et cela plus encore que l'indignation des Slang, plus encore que l'amertume d'avoir trahi son don et la mémoire de ses parents, lui fut odieux.
Herat pointa son pistolet sur l'estrade. « Une seule question, boiteux !»
Sont-ils coupables? Ou non?
Solman considéra avec froideur le petit œil rond et noir de l'arme dirigée sur son front.
Il me semble t'avoir entendu dire tout à l'heure que j'étais précieux, qu'il fallait veiller sur moi jour et nuit.
Coupable ou non?
Répéta le Slang.
Pourquoi m'avoir demandé de présider ce jugement si tu ne me fais pas confiance?
Coupable ou non? Réponds, bon Dieu!
Tu me tueras si la réponse ne te convient pas?
Erat pressa la détente. Le projectile siffla au-dessus de la tête de Solman et alla percuter un pilier métallique. Les trois enfants juges s'égayèrent de part et d'autre de la banquette et s'évanouirent dans les ténèbres qui cernaient l'estrade. Seule Laure demeura assise sur sa chaise, comme si, quoi qu'il arrivât, elle avait choisi de lier son sort à celui du donneur. Un premier cri de protestation surgit de l'assistance, suivi aussitôt de vociférations qui montèrent de divers endroits du chapiteau. Les deux autres slangs dégainèrent à leur tour leurs pistolets. Les spectateurs les plus proches reculèrent et provoquèrent de nouvelles vagues d'affolement qui emportèrent les assesseurs et divisèrent la multitude en courants convulsifs. L'odeur de poudre se fit dominante, menaçante. Solman se leva et s'avança d'une démarche claudiquante vers le bord de l'estrade. Il en appela à toute sa volonté pour ne pas révéler la torture que représentait pour lui le simple fait de marcher après une aussi longue immobilité. Dans la main levée de Erat, le pistolet luisait comme un serpent venimeux.
« Tu peux me tuer, vénéré Père Slang? Tu peux les tuer ?»
Solman désigna les membres du conseil Aquariot. « Mais ni ma mort, ni la leur ne te rendront les tiens.
« Pourquoi refuses-tu de répondre, boiteux ?»
grogna le Slang.
« Est-ce qu'il t'est si difficile de tricher ?»«
Encore plus difficile et douloureux que tu ne l'imagines, » songea Solman. À chacun des mots qui sortaient de sa bouche, c'était une part de lui qui s'en allait, un fragment de son intégrité qui s'arrachait.
« Je les déclare non coupables. » dit-il dans un souffle.
« Tu mens !»
Une nouvelle détonation claqua, et Solman sentit très nettement la brûlure rageuse de la balle à quelques centimètres de sa joue. Puis, il entendit d'autres coups de feu. Quatre ou cinq, vit comme dans un rêve des grappes vociférantes de spectateurs se ruer sur les trois slangs et s'enchevêtrer dans l'épais nuage de fumée qui absorbait la lumière des projecteurs. D'autres silhouettes traversèrent l'espace réservé aux accusés, grimpèrent sur l'estrade, convergèrent vers la droite de la banquette et se penchèrent sur un petit corps inanimé et enveloppé de rouge. Une tiare gisait sur les planches à côté d'une chaise renversée. Jouant des épaules et des coudes, Solman réussit à se frayer un passage jusqu'alors, étendu sur le dos. La gorge déchiquetée par une balle, la petite Léote luttait de toutes ses forces pour garder les yeux ouverts. Le sang jaillissait par saccades de la plaie béante et imbibait le haut de sa robe. Au bord des larmes, Solman s'agenouilla près de la fillette et lui prit la main. Alors elle fit un dernier effort pour lui adresser un sourire, avant de s'en aller en douceur, sans crispation ni spasme, comme déjà consolée de la brièveté d'une existence sans joie. Ce fut au père et aux mères du peuple Aquariot qu'il revint de sauver la vie des trois slangs, à Erwan en particulier, qui, voyant que la foule était sur le point de les exécuter, intervint avec une rare énergie pour ramener les bourreaux improvisés à la raison. Les troquants d'armes n'avaient pas prévu que leurs arguments se retourneraient contre eux. En démontrant que Solman était le dernier des donneurs, ils avaient regroupé les spectateurs autour de lui, et à travers eux, l'ensemble des peuples nomades. L'assistance n'avait pas supporté qu'ensuite ces mêmes slangs se permettent de contester le jugement à coups de pistolet et provoquent la mort accidentelle de Laure, la fillette Léote dont le courage les avait bouleversés. Innocenté par le donneur, le conseil Aquariot sortait grandi de l'épreuve. Et c'est sans doute ce surcroît de prestige qui lui valut d'enrayer la folie vengeresse de la foule. On ne manqua pas de louer la grandeur d'âme de ses pères et de ses mères, qui, malgré leur grand âge, n'hésitèrent pas à se jeter dans la mêlée pour épargner leurs accusateurs. Neutralisés, désarmés, les Slangs furent enfermés dans une voiture en métal en attendant que le Conseil général des peuples prenne une décision à leur sujet. Solman pleura une grande partie de la nuit dans les bras de Raïma. Retenue par les consultations, elle n'avait pas eu la possibilité de se rendre sous le chapiteau des jugements, mais elle avait perçu des rumeurs une heure plus tôt. Était sortie de sa voiture, avait vu les assesseurs emmener les pères et les mères Aquariot, et s'était doutée que des événements graves agitaient le grand rassemblement. En dépit d'une curiosité dévorante, elle s'abstint d'interroger Solman, secouée par les sanglots, recroquevillée en position de fœtus, battue par le chagrin, aussi fragile et aphasique qu'un nourrisson. Elle se contenta de lui administrer une potion calmante, puis de le bercer en fredonnant la comptine, toujours la même, que lui chantonnait sa mère pour l'endormir. Elle resta éveillée jusqu'à l'aube, attentive aux bruits qui trouaient le silence nocturne, immergée dans ses souvenirs, restituée à une enfance marquée par la maladie et la mort. Maître Kira, le guérisseur, l'avait choisi pour l'initier au secret des plantes et lui succéder. Mais malgré sa bienveillance, malgré sa générosité, malgré sa joie de vivre, il n'avait pas réussi à remplacer ses parents dont la tente, plantée imprudemment au bord de la rivière Oder, avait été emportée par une crue soudaine. Elle avait souvent regretté de ne pas s'être trouvée en leur compagnie lorsque l'eau avait submergé la fragile construction de toile. Du haut de la colline où elle se promenait, elle avait vu le tissu clair et les caisses de bois flotter pendant quelques secondes à la surface bouillonnante. Rien n'avait laissé prévoir une crue d'une telle violence. On était au cœur de l'été. Les rares averses n'avaient rien eu de torrentiel. L'Oder, bien qu'anormalement grosse à cette période de l'année, n'avait pas atteint sa cote d'alerte. Et il avait semblé à Raïma que le cours d'eau ne s'était soulevé que pour emporter ses parents. Comme un monstre surgit brusquement de son antre pour dévorer les deux proies passant à portée de gueule. Fille unique, elle en avait éprouvé un sentiment de culpabilité dont elle ne s'était jamais complètement affranchie. Même si ses parents, son père en particulier, n'avaient pas toujours eu vis-à-vis d'elle un comportement irréprochable. Il ne lui avait pas laissé le temps de prouver qu'elle n'était pas seulement une transgénosée, une réprouvée, une porte ouverte sur le malheur. À l'aube, elle se détacha de Solman profondément endormi, se leva et fit coulisser le panneau mobile qui masquait un miroir en pied. Elle ne s'y était pas contemplée depuis plusieurs semaines, de peur d'être horrifiée par son reflet, mais elle éprouvait ce matin la nécessité impérieuse de se confronter à elle-même, un besoin urgent, vital, de faire le point, de dresser l'inventaire complet des ravages opérés par la maladie sur son corps. Elle faillit hurler lorsqu'elle contempla, à la lumière du petit jour criblé par les interstices des stores, les excroissances anciennes qui s'étaient agrandies et opacifiées sur ses épaules et ses jambes, les tumeurs nouvelles, encore bénignes, qui lui poussaient sur les cuisses, les hanches, le ventre, la gorge, le front et les joues, les bosselures perfides qui altéraient les courbes pures de ses seins, son dernier bastion de femme. Suffoquée par un début de panique, elle s'obstina néanmoins à traquer les méfaits de la transgénose avec une contention proche du masochisme. Elle se retourna, se tordit le cou pour examiner les protubérances sur son dos, sur ses fesses. En trouva de nouvelles en gestation en palpant les rares zones en apparence épargnées. Fit le rapprochement entre cette éruption massive et l'irritation persistante qui, depuis quelques jours, lui agaçait le vagin. Écarta les jambes, glissa le majeur de sa main droite entre ses lèvres, perçut la petite boule qui s'était formée dans la muqueuse à l'entrée du conduit. Elle prit alors conscience qu'elle était entrée dans la phase terminale de la maladie. Dans quelques mois, dans une année peut-être, avec de la chance, ses organes auraient subi de tels bouleversements qu'ils cesseraient peu à peu leurs fonctions et qu'elle s'empoisonnerait avec son propre sang. Désemparée, elle se laisse asseoir sur le bord du lit. Son refus catégorique de la dégénérescence et de la mort l'avait empêché de préparer son départ. Et maintenant, il ne lui restait plus assez de temps pour former un successeur. Elle serait celle par qui se briserait la lignée des guérisseurs aquariotes. La porte ne s'ouvrait pas seulement sur le malheur d'une famille, mais sur celui de tout un peuple. Aux prises avec un début de nausée, elle resta un long moment assise devant ce miroir qui lui renvoyait l'image de sa déchéance avec la précision implacable des témoins sans âme. Même nue, elle paraissait entièrement vêtue par ces moignons absurdes dont les plus anciens commençaient à se recourber sous leur poids. Elle s'était efforcée d'oublier sa maladie dans les bras des hommes qu'elle avait attirés sur sa couche, en particulier avec Solman, dont elle était tombée amoureuse, mais elle n'avait pas réussi à distancer le malheur. Elle était désormais acculée à pourrir sur pied, à devenir une charogne informe et puante. Elle en savait quelque chose. Elle avait lavé des malades en phase terminale. Elle se sentit infiniment laide, infiniment sale, infiniment triste. Elle fut taraudée par la tentation d'absorber la fiole du poison foudroyant des plantes grimpantes et de mettre fin à l'absurdité de sa vie. Mais un bref regard par-dessus son épaule l'en dissuada. Le sommeil n'avait pas apaisé les traits de Solman. La comparution des pères et des mères aquariotes n'était qu'une péripétie de l'entreprise systématique de destruction menée contre les peuples nomades, contre les vestiges de l'humanité, tout comme la Troisième Guerre mondiale, tout comme l'empoisonnement des eaux, tout comme l'attaque de la horde de chiens. Et il aurait encore besoin d'elle dans les jours à venir. Elle s'examina une dernière fois avant de refermer le panneau coulissant et trouva la force d'adresser un sourire provoquant à la caricature de femme qui la singeait dans le miroir.